le pirate. Jeff Fillion sur XM172. Jeff le pirate.
Peu importe où je vais être, j'ai assez confiance en moi que je vais me trouver de quoi. Ça peut être pas dans le domaine de la radio, ça peut être dans autre chose, mais je suis assez vif, je suis assez travaillant pour me trouver de quoi pour survivre. Par contre, actuellement, on est dans les 4-5 dernières années où, après ça, on va pouvoir fermer les lumières puis crisser notre camp et dire, regarde, restez une gang de BS ensemble, une gang de non-visionnaires puis des gens qui veulent aller nulle part, mais on est foutus. Mais je veux pas arriver là. Moi, je veux qu'on gagne.
Jeff le pirate, de 6h à 10h sur XM172. 20 on 20. 20 on 20. 20 on 20. 20 on 20. 20. Les premières places du palmarès. Que des hits. Que des succès. Actuels sont sur 20 on 20. Les premières places du palmarès. Sur 20 on 20. Les chansons les plus rares. Les premières places du palmarès sont sur 20 on 20. XM 20. Sur les ondes de Radio Parallèle XM 172, vous écoutez Sans Compromis avec le maire Gendron.
Il est déjà 13h et je vous rappelle notre question du jour. Je vous invite à aller voter le plus tôt possible. Vous aurez de toute façon jusqu'à lundi prochain sur le coup de midi pour répondre à la question suivante à l'adresse www.stéphanegendron.net. C'est le site internet de l'émission Sans Compromis. Un meurtrier qui bat à mort sa femme, a-t-il le droit d'enseigner à nos enfants? Vous dites oui à 5% et non, cette situation me révolte à 95%. Vous avez vu cette nouvelle qui est rapportée depuis quelques jours. Jean, c'est quoi son petit nom déjà? Jean, j'ai son nom ici, là. Jean-Alix Miguel a menti sur le fait qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire, est allé devant la Cour supérieure quand on a découvert l'information qu'il était un meurtrier, 7 ans de prison. Et finalement, bien, la Cour supérieure lui a dit qu'en vertu de la Charte des droits et libertés, il pouvait enseigner à nos jeunes. Vive le Québec libre! Maintenant, pour parler d'immigration, c'est un dossier qui fait des vagues depuis à peu près une semaine. Vous savez, Mario Dumont va luncher avec Patrick Lagacé, ensuite dit on a atteint notre seuil critique, notre capacité d'absorption, et on devrait investir plus dans l'intégration. Ensuite, Jean Charest traite Mario Dumont pratiquement de Jean-Marie Le Pen, et Pauline Marois veut récupérer tous les pouvoirs en immigration pour le Québec et développer davantage, et je vous invite à aller lire ce matin l'excellent éditorial d'André Pratt dans la presse, qui dit que Pauline Marois a rêvé tout ça à l'heure où on est en train de faire une psychose avec le terrorisme et tout ce que vous voulez sur la planète, donc le fédéral va sûrement vouloir se garder un certain pouvoir. Et allez lire Vincent Marissal aujourd'hui dans la presse, qui a à peu près tout résumé ma pensée sur le sujet. Un excellent billet. C'est vraiment la paranoïa, la question de l'immigration. Il n'y en a pas de problème. Il faut pas créer des problèmes où est-ce qu'il y en a. Il y a des cas anecdotiques rapportés ici et là quand on parle d'accommodement raisonnable, mais c'est pas les immigrants ou les néo-québécois qui sont le problème, c'est le manque de leadership, point. Il y en a pas de problème, et moi je l'ai toujours dit, je rêverais d'en avoir deux fois plus. Moi je pense qu'on devrait en avoir 100 000 par année. C'est une richesse, point à la ligne, à tous les sens. Et pour en discuter de toute cette question d'intégration, de nombre, de position politique, de peur justifiée ou pas, j'ai Madame Laurence Nadeau d'immigré.com qui est au bout du fil. Madame Nadeau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gendron.
Bon, là, est-ce que le débat qui dure depuis une semaine, la commission Bouchard-Taylor qui commence ses travaux, est-ce qu'il n'y a pas un risque là, qu'on s'enfonce encore dans la pseudo-folie de Québécois TVA, Journal de Montréal, qui avait lancé le fameux sondage qui disait qu'on était raciste? Non?
Oui, c'est ça exactement, c'est la même chose. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, on recommence.
Oui,
on
encore une fois.
Des accommodements raisonnables tout l'automne dernier. Et là, je me suis dit, bon, il faut parler de l'immigration, il faut parler des accommodements mais il faut pas délirer non plus. Là.
Oui.
Comme vous disiez, je veux dire, les immigrants en général, là, la grande majorité des immigrants, ce qu'ils veulent quand ils arrivent ici, c'est la paix.
Ben
avoir
oui.
Un travail, une job, d'avoir leur diplôme reconnu, puis être comme tout le monde. C'est pas parce qu'il y a une petite minorité qui vont demander des choses excessives que, d'un seul coup, il faut tous diaboliser les immigrants. Oui. Alors, c'est évident que c'est très glissant comme sujet. Puis quand on a commencé à parler de ça il y a un an avec les accommodements, je me suis dit, c'est bien qu'on en parle, mais j'ai trouvé que la façon de l'aborder et que l'emprise, l'espèce de tourbillon médiatique que ça a pris, c'était épouvantable, parce qu'il faut en parler sérieusement. C'est des sujets sensibles. On veut se poser en tant que société, on veut se demander où est-ce qu'on veut aller dans X années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut pas commencer à faire une bataille, essayer d'accuser l'autre de raciste ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de Jean-Marie Le Pen au Québec. Mmh. Mario Dumont, on peut le traiter de toutes sortes de choses, mais il faut quand même pas exagérer. Jean-Marie Le Pen, là, je veux dire, moi, je côtoie des Français tous les jours. Mon mari est français, j'ai vécu en France. Hey, on est loin de ça.
Oui, c'est une autre paire de manches, là.
Mais là, écoutez, on n'est pas pour commencer à avoir peur de nos immigrants comme ça. C'est des gens sélectionnés. C'est la crème des pays qui viennent dans notre pays. Alors, je dis pas qu'ils sont parfaits, qu'ils sont sans défaut, puis qu'il y a personne qui demande rien de, qui est un peu, qui dépasse des fois un petit peu l'entendement. Il y a eu des excès. Mais ce n'est pas la majorité des immigrants ne demandent pas tant d'accommodement. C'est pas vrai. Fait qu'il faut vraiment que le débat revienne. Et je trouve ça assez triste de voir qu'on revient, et pourtant c'est pas parce que je suis une partisane particulière de Mario Dumont, mais qu'on commence à balancer à Mario Dumont qui va trop loin, puis tout ça. Est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là tous ensemble? En tant que société, il faut qu'on se demande, il faut qu'on se pose des sérieuses questions en tant qu'être mature. Est-ce qu'on veut accueillir des immigrants? Combien? On a le droit de déterminer toutes ces choses-là. Il y a une grille de sélection pour accueillir des immigrants chaque année.
Oui.
On a le droit de se demander, est-ce qu'on veut des gens qui sont plus des diplômes universitaires ou plus des diplômes techniques? Mm-hmm. Est-ce qu'on veut du monde qui parle très bien le français ou ça va, ils baragouinent le français puis on le fait rentrer? On a le droit de se poser cette question-là. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui font rentrer des immigrants. Il y a l'Australie puis le Canada, grosso modo, parce que les États-Unis, à part le parrainage ou la loterie verte, là,
ouais, c'est
pas vraiment possible, là, ou de monter le mur qu'il y a maintenant au
Ben oui, entre Mexique, le Mexique là, puis les États-Unis.
Mais grosso modo, alors, on n'est pas des racistes, là, on veut juste savoir comment on va accueillir nos immigrants. Il faut juste déterminer ça. On pense tous que l'immigration, à long terme, c'est quelque chose de bénéfique pour une société. Regardez l'après-guerre, là, aux États-Unis, tous les immigrants qui ont
accueilli
Europe, puis le dynamisme aux États-Unis qui s'en est suivi. L'immigration, c'est bon à long terme pour une société. Mais par contre, à court terme, il faut des investissements. Parce que c'est sûr qu'on veut pas des gens qui soient ghettoisés, qui se retrouvent isolés. Alors, oui, en effet, il faut continuer, par exemple, à refinancer les cours de francisation, parce que, oui, on reçoit plus d'immigrants francophones depuis 10 ans. C'est super. Mais par contre, on n'a pas encore le 100% d'immigrants qui parlent le français quand ils arrivent. Alors, il y a quand même autour de 40-45% d'immigrants qui ne parlent pas le français en arrivant au Québec. Mais il faut qu'ils aient des cours de francisation. À côté de chez moi, j'ai une Colombienne qui est là depuis 6 mois. Bon, elle travaille dans une garderie. Elle baragouine l'anglais. Quand est-ce qu'elle va apprendre le français? Et quand je vois que les libéraux ont coupé les cours de francisation il y a quelques années, ben ça m'inquiète. Surtout s'ils veulent recevoir plus d'immigrants.
C'est ça que je voulais vous demander, Mme Nadeau, puis vous connaissez le dossier. Si vous étiez à la tête du ministère de l'Immigration, quelles seraient vos priorités? Où on devrait éteindre les feux ou réinvestir?
Mais moi, là, les cours de francisation, c'est primordial. Parce que ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez? Ils savent que c'est bien compliqué, hein, le français, l'anglais au Québec. On sait tous qu'il faut parler le français, mais aussi, il faut baragouiner l'anglais. Et ça dépend d'où est-ce qu'on vient en tant qu'immigrant. Moi, je m'adresse beaucoup à des immigrants francophones via mon site web. Alors, c'est évident que c'est des gens qui n'ont pas ce problème de langue-là. Mais quand on vient d'Amérique latine, on a tellement une facilité d'apprendre le français.
Oui.
Mais bon sang, il faut leur en donner des cours de français. Il faut qu'on leur en donne. Et quand on vient d'Asie, c'est beaucoup plus difficile. Ben, il faut doubler d'ardeur auprès des immigrants asiatiques. C'est des forts travailleurs. C'est des gens qui veulent travailler, qui veulent s'intégrer dans la société. C'est des bons travailleurs. Mais il faut, mon Dieu, bon sang, qu'ils apprennent le français. Et aussi, un autre problème qu'on a, c'est que les immigrants sont beaucoup centrés sur l'île de Montréal.
Oui.
Et ça fait un problème. Moi, j'habite dans l'ouest de la ville, puis des fois, je rencontre des immigrants, parce qu'évidemment, je ne peux pas empêcher de parler avec eux, qui me disent « Ah, vous êtes une Québécoise de souche, pure laine, tu sais, genre, je suis comme une espèce en voie de disparition pour certains. » Ils n'en voient pas, ils n'en rencontrent pas. Autant comme dans certaines régions du Québec, il n'y a pas d'immigrants, autant que dans l'ouest de la ville, faut presque creuser pour trouver un Québécois qui est arrivé dont sa famille date du 17e siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, ça n'a pas de bon sens, ce débalancement-là. Ça me fait peur un peu. Puis en même temps, c'est sûr que toutes les villes, tous les pays dans le monde qui accueillent beaucoup d'immigrants, et même ceux qui n'ont pas de programme aussi dynamique que le nôtre au niveau de l'immigration, tout le monde se retrouve avec le même problème. Les immigrants viennent dans les grandes villes.
Oui.
Et ça, c'est une espèce de c'est pas tant parce que dans les grandes villes, il y a moins de chômage. C'est pas vrai, parce que sinon, ils iraient tous à Québec.
Il y a mais il y a un pouvoir d'attraction, quand même, de la grande ville multiculturelle et
oui,
tout ça, là.
Ils sont rassurés. Ils savent tous qu'ils vont avoir quelqu'un qu'ils vont connaître.
Oui.
Un ami de la famille ou quelqu'un de... Souvent, ils vont débarquer quelque part juste parce qu'ils ont un contact. Même si ce contact-là est futile, mais c'est un contact, ça les rassure. Mais et le problème, c'est que souvent, ils restent pris là, un peu comme une moule sur un rocher. Puis là, ils en démordent pas. Puis c'est sûr, c'est facile. Il y a le réseau. Tout est.
Mais comment les attirer en région? Moi, j'en prendrais plein d'autobus chez nous. Mais il y a des régions qui ont eu du succès. Je pense Sainte-Clotilde, en Beauce, ils ont réussi à attirer des gens de la Colombie. Un groupe d'une cinquantaine, ça doit se faire, ça.
Mais c'est peut-être des réfugiés dans ce cas-là, parce que c'est ça qu'ils font. Quand ils ont des réfugiés, quand il y a une crise dans le monde, puis qu'ils vont chercher, je sais pas moi, 150 réfugiés, puis ils l'amènent, par exemple, au Saguenay, là, ils peuvent le faire. Mais quand c'est des immigrants indépendants, là, les travailleurs autonomes, ceux qui sont la crème des sociétés...
Ils s'orientent vers Montréal, là.
Ils s'en viennent tous à Montréal, puis souvent, je leur dis, moi, j'essaie de leur expliquer dans toutes les façons possibles, aller ailleurs. Montréal n'est pas l'endroit où il y a le moins de chômage au Québec, loin de là, je veux dire. Quand tu regardes la ville de Québec ces dernières années, c'est incroyable.
Oui, l'Outaouais aussi, oui.
L'Outaouais, c'est super dynamique.
La Beauce aussi, oui.
Allez-y, les cantons de l'Est, allez-y. Ben, je sais pas, peut-être qu'au niveau, si j'étais le premier ministre de l'immigration, peut-être que je ferais plus incitatif, je sais pas, je veux pas faire comme avec les médecins en région, mais je sais pas, quelque chose plus incitatif, parce que c'est pas bon pour une société que tous les immigrants se trouvent au même endroit, puis que il y a pas de autant de contacts, mais en même temps, je vois pas de société où ce n'est pas le cas. C'est pour ça que ça me désespère un peu. Je vois pas d'exemple.
Quand vous parlez de ghettoisation, c'est pas un peu normal que la première génération, justement, on se retrouve entre nous autres, deuxième génération, ça se dilue, puis la troisième, on n'en parle plus, là.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et ça, d'ailleurs, quand on parle des immigrants, souvent les gens parlent des immigrants comme d'un bloc monolithique. Mmh. Et c'est pas la même chose quand ça fait 6 mois qu'on est là, 5 ans, 10 ans, même si on est la première génération. Mmh. Parce que les 6 premiers mois, c'est sûr que nos amis, nos références, on n'arrête pas de dire c'est pas comme dans mon pays ou c'est comme dans mon pays. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de... C'est évident, vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai que souvent, on regarde les Italiens. Quand on regarde les Italiens qui sont arrivés en massivement dans les années 60 au Québec, ben ils sont tous installés à Saint-Léonard. Ben aujourd'hui, on voit qu'ils ont migré vers Laval, vers un peu partout ailleurs. C'est sûr. Alors là, on a des communautés qui sont plus récentes. On a beaucoup plus de musulmans qui sont installés à Montréal depuis, surtout depuis les années 90. Alors, bon, pour l'instant, ils sont encore beaucoup sur Montréal. Où vont-ils immigrer par la suite dans la grande ceinture, là, bon, les banlieues montréalaises? C'est bien, mais moi, j'aimerais ça qu'ils quittent le Montréal même, qu'ils quittent la grande région de Montréal, qu'ils aillent s'installer ailleurs, parce que aussi, les gens qui font parfois des idées préconçues envers les immigrants, c'est aussi parfois, peut-être parce qu'ils n'en connaissent pas assez.
Oui, peut-être l'ignorance,
C'est ça, je veux dire, c'est comme, la grande ville de Montréal, on a des meurtres, mais finalement, au mètre carré, au pourcentage de gens qu'on est à Montréal, il n'y a pas tant de meurtres que ça, tu sais. C'est un peu la même chose avec les immigrants. Mais oui, on va toujours parler des cas extrêmes qui n'ont pas de bon sens. Puis si on n'en connaît pas, on risque de généraliser. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit « Oui, mais ils viennent de pays en guerre, ils amènent leur culture de guerre. » Wow. La part des immigrants, ils sont les premières victimes de ces guerres-là.
Ils quittent ce pays-là justement pour avoir la paix, comme vous le disiez.
Exactement, pour avoir la sainte paix. Je dis pas qu'ils sont tous parfaits, on le sait. Évidemment, il y a toujours des excès. On l'a vu avec les accommodements déraisonnables. Il y a des excès, mais la grande majorité des immigrants veulent s'intégrer. Ils veulent oublier leurs problèmes du passé. Alors, ça, c'est un problème. Alors, qu'on me dise, par exemple, il y en a qui font des gangs de rue. Ouais, mais attends, là. Ici, au Québec, on n'a pas des problèmes de gangs de rue, les rockers, là.
De la famille Dubois,
chez nous. Gangs de rue aussi. Puis, ça n'a pas toujours été des enfants de cœur.
Mais quand vous êtes en contact, là, avec ces néo-québécois-là, quelle est la première difficulté ou la première critique qu'ils ont envers la société d'accueil? Parce que nous aussi, on n'est pas parfaits, là, dans notre façon, là.
Qu'est-ce
qui revient souvent?
Gros problème, c'est le gros hic. Je dis, si on veut pas frustrer les immigrants, si on veut justement qu'ils s'intègrent dans notre société, qu'ils se restent pas entre eux à ruminer, il faut justement les intégrer. Il faut leur donner des jobs. Il faut arrêter d'avoir peur d'embaucher un Mohamed, parce qu'on s'imagine que le Mohamed, il va vouloir je sais pas trop quoi. C'est normal, l'être humain, il s'approche des gens, puis s'entend bien avec les gens naturellement qui leur ressemblent. Je veux dire, évidemment, il va y avoir des différences culturelles, mais en même temps, c'est des gens qui ont été sélectionnés. Ils sont arrivés ici, ils ont un grand besoin et désir de s'intégrer. Alors, je ne dis pas qu'ils sont pas tous parfaits, mais il faut, pour que l'intégration se passe bien, il faut qu'à la fois qu'il y ait un effort de la part des immigrants, puis aussi un effort de la part de la société d'accueil. Ça veut dire autant de la part des gouvernements que de la population générale. Évidemment, vous allez me dire, est-ce que les Québécois ont vraiment choisi d'avoir une immigration? Ben là, s'il y en a qui sont pas contents, qu'ils aillent justement au mois de septembre à la commission parlementaire, là, qui est dit chaque année, ils présentent. En tout cas, quand ils ont des plats, ils les présentent à la population. Oui. Ben qu'ils aillent dire ce qu'ils pensent les gens, mon bon Dieu. Si on découvre que la majorité des Québécois veulent moins d'immigrants qu'on en reçoit annuellement, moi je veux pas m'opposer contre la majorité, mais bon Dieu qu'on le dise, qu'on le fasse, parce que je voudrais pas qu'on se retrouve avec un problème dans quelques années parce qu'il y a une espèce de psychose. Vous comprenez?
Oui.
Mais en même temps, il faut calmer cette psychose-là. Il faut rassurer les gens, il faut les éduquer. S'ils ne connaissent pas assez les immigrants, il faut les rassurer. Je ne sais pas comment le dire, mais...
Oui, mais Mme Nadeau, parce que le temps file, rapidement, en conclusion, est-ce que, d'après vous, là, d'après votre expérience et vos contacts avec les communautés, est-ce que le Québec est prêt à en accepter plus à l'heure où on se parle?
Bien, c'est-à-dire que tous les ans, on devrait en accepter plus. On peut pas fermer l'immigration, on a trop besoin.
Oui.
Mais peut-être que pour l'instant, si on n'augmente pas les budgets pour franciser plus nos immigrants, moi, je vous dirais, on resterait peut-être dans les mêmes chiffres à peu près.
Oui.
Mais si on augmente les budgets, si on aide plus les organismes qui aident les immigrants à s'intégrer, à ce moment-là, c'est pas la même chose.
Oui. C'est une question de budget aussi.
Il faut mettre de l'argent là-dedans. C'est ça le problème. C'est qu'au départ, il faut, bon Dieu, reconnaître leur diplôme. Moi, je veux pas faire immigrer des gens qui vont être chauffeurs de taxi.
Alors qu'ils sont médecins,
oui. Je veux pas des médecins chauffeurs de taxi. Je veux des médecins dans les urgences à Montréal. Mm. Vous voyez?
Ah oui, j'ai connu un immigrant, moi, du Vietnam. Vous croirez pas ça. Il était mopologiste au Collège français alors que c'était un médecin. C'est pas des farces, hein?
Ah oui.
Médecin. Ben, écoutez, Mme Nadeau, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, c'était Mme Laurence Nadeau qui opère le site immigré.com. Et qui commentait évidemment tout ce débat qui fait rage au Québec encore une fois sur des questions anodines, anecdotiques, comme le disait Vincent Marissal aujourd'hui dans la presse. On devrait peut-être se concentrer sur les réels problèmes de l'intégration, les budgets, la francisation, la reconnaissance des diplômes pour que ces gens-là puissent transférer leurs compétences au plus vite. Et pour ceux qui veulent diminuer l'immigration au Québec, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui ont des sentiments de xénophobie, mettez-vous dans la peau d'une personne, là. Par exemple, vous-même, faites vos bagages demain matin et allez vous établir, moi je sais pas, en Colombie, en Venezuela ou dans le sud des États-Unis. Faites l'exercice. Au bout d'une semaine, vous allez revenir en courant. Donc mettez-vous dans la peau de ces gens-là qui quittent leur pays, qui laissent tout derrière eux pour recommencer à zéro. Vous n'aurez même pas le courage de le faire vous-même, bande de poltrons. 13h17 et au retour de la pause, on parle avec Raphaël Canette. Du Forum social québécois. C'est un premier forum qui se tient à Montréal du 23 au 26 août. On va essayer de savoir ce que ça mange en hiver, cette affaire-là. Vous êtes à l'écoute de l'émission Sans compromis, jusqu'à 14h.
Il ne faut pas délirer non plus, là.
Oui.
Comme vous disiez, je veux dire, les immigrants en général, là, la grande majorité des immigrants, ce qu'ils veulent quand ils arrivent ici, c'est la paix.
Ben
avoir
oui.
Un travail, une job, d'avoir leur diplôme reconnu, puis être comme tout le monde.
Jeff le pirate.
Mon chum Paul Poirier qui est en charge de la cardiologie à l'hôpital Laval. Puis lui est bien inquiète à chaque début de saison. Il en ramasse des gars au hockey là, qui des gars de 40 ans, des gars de 35 ans, puis là de plus en plus ça va jeune parce que de plus en plus il y a des jeunes qui pensent qu'ils sont capables de jouer. Mais vous checkez vous autres, mais vous envoyez Paul faire un test là. On va pas en ramasser un sur le bout du bar.
Jeff le pirate. Jeff Fillion sur XM 172.
À Radio Parallèle XM172, ne manquez pas Livraison spéciale, une présentation de Transport Magazine, à compter de 10h, heure de l'Est, du lundi au jeudi avec Jacques Plante et le vendredi avec Bobby Roy du CFPR. Entrevues, opinions, nouvelles, toutes les actualités du monde du camionnage. 10h, heure de l'Est, c'est Livraison spéciale, du lundi au jeudi avec Jacques Plante et le vendredi avec Bobby Roy sur Radio Parallèle XM172.
XM Radio Satellite propose une offre exceptionnelle pour les routiers. Abonnez-vous pour un an à XM Radio Satellite d'ici le 30 septembre 2007 et obtenez en retour aucun frais d'activation, 3 mois gratuits et un abonnement d'un an à Transport Magazine.
Visitez xmradio.ca et utilisez le code promotionnel TRANSMAG pour profiter de cette offre exceptionnelle. Ne manquez pas livraison spéciale avec Jacques Plante sur Radio Parallèle XM 172 en collaboration avec Transport Magazine.
Vous écoutez Sans compromis avec le maire Gendron sur Radio Parallèle XM 172.
13h18, j'ai une information d'affaires publiques à transmettre à nos auditeurs. Évidemment, si vous êtes dans la région de la Montérégie, dans le triangle des municipalités d'Abercorn, Saint-Hyacinthe et à l'ouest jusqu'à Huntingdon, vous allez voir des avions à très basse altitude qui vont survoler le ciel au cours des prochains jours. Ça va être vraiment très bas, il n'y a pas de question d'urgence, c'est pas l'armée qui vient espionner, c'est pas la CIA. Mais soyez attentifs parce que le gouvernement va larguer dans la région environ 450 000 appâts, c'est des vaccins sous forme de chocolat qui vont tomber sur la région partout. C'est des vaccins contre la rage du raton laveur. On en a parlé avec un trappeur en début de semaine. Les cas de rage sont rendus dans la région de la Montérégie et c'est une préoccupation de santé publique très importante. Alors si vous tombez là-dessus ou si vos enfants vous rapportent ces tablettes de chocolat en question, évidemment, il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les manger. C'est un vaccin contre la rage qui est destiné aux ratons laveurs qui vont en faire justement la digestion et ils seront protégés par la suite. Et un des indices de savoir que le raton laveur l'a mangé, c'est qu'il aura les dents rouges. Mais si vous voyez un raton laveur qui a l'air étrange dans votre entourage, appelez votre municipalité pour qu'on puisse aller le tuer au plus rapidement possible. C'est très dangereux. Il ne faut pas s'attrister avec un raton laveur de la sorte parce que vous allez être infecté par la rage. Et il y a des cas qui ont été diagnostiqués récemment. Donc, c'est une question de santé publique. L'opération de largage va commencer si ce n'est pas déjà fait. Et les avions vont voler à très basse altitude dans notre coin de la Montérégie. Maintenant, j'ai un invité au bout du fil qui va nous parler de la première édition du Forum social québécois. Ça se tient à Montréal et ça aura lieu du 23 au 26 août 2007. Évidemment, il y a plusieurs organismes qui sont rattachés à cette organisation-là. Bien sûr, on va dénoncer, j'imagine, le néolibéralisme. Et ça tombe bien parce que vous savez qu'il y a un grand sommet à Montebello entre Stephen Harper, Calderon et Bush. On a déjà mis la municipalité dans la région comme une grande forteresse. Vous avez vu les photos, les clôtures et tout. Alors, ce qui se passe à Montebello, c'est un peu différent de ce qui va se passer au Forum social québécois. Et pour en discuter, j'ai M. Raphaël Canet au bout du fil qui est lié à l'organisation. M. Canet, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est la première fois que ça a lieu à Montréal, ça?
Oui, tout à fait, même au Québec en général.
Donc, comment ça va s'organiser? Qui est invité et quel est le but à travers ça? Parce qu'on sait qu'en parallèle, là, il y a nos chefs d'État en Amérique qui débarquent dans leur forteresse, là.
À Montebello, oui.
Oui.
Non, en fait, le Forum social québécois, là, qui aura lieu le 23 au 26 août, donc c'est un peu décalé par rapport à Montebello.
Oui.
C'est prévu depuis bien avant Montebello. C'est une coïncidence, là, que ça tombe un peu au même moment.
Oui.
Mais le Forum, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ça se veut très participatif, inclusif. C'est un espace de débat où tout le monde peut venir présenter ses, discuter, présenter ses formes d'action et ses propositions pour faire un Québec un peu plus solidaire, un peu plus juste, un peu plus harmonieux et plus respectueux de l'environnement. Donc c'est un peu les thèmes qu'on a définis et toute la programmation, les 315 activités qu'on aura en deux jours là, ont été proposées par les participants eux-mêmes. Donc c'est eux qui font le débat.
Oui, mais vous faites ça, le but d'avoir un forum, j'imagine ça va peut-être revenir d'année en année. Mm-hmm. Est-ce que c'est une inquiétude, quoi, suite à la dérive du néolibéralisme, là, vous sentez une tendance vers la droite?
Oui, on sent une certaine tendance vers la droite, néolibérale ou néoconservatrice.
Oui.
Ça, c'est un peu sûr. C'est un peu la tendance nord-américaine, d'ailleurs. Et nous, l'initiative, en fait, on n'a rien inventé. Hein. On reprend une formule qui existe depuis 2001 un peu partout dans le monde, les forums sociaux,
oui,
mondiaux, régionaux, locaux. Mais ça s'était jamais fait chez nous. au Québec ni au Canada. Il y avait eu des forums très locaux, comme au Saguenay ou à Québec, les années passées, mais jamais un forum à l'échelle de toute la province. Nos voisins du Sud, les Américains, ont organisé leur premier forum social États-Unis fin juin, début juillet, à Atlanta.
Oui.
Qui a été aussi une première et puis une belle réussite pour eux. Donc, on voulait un peu se situer dans la même mouvance pour pouvoir permettre l'éclosion de cet espace là, participatif de discussion sur le projet de société, dans le fond, qu'on veut chez nous, et puis pour poser les thèmes et les enjeux de société, mais en laissant la parole un peu à tout le monde.
Ben, je vois vos thèmes ici. Le bien commun n'est pas l'intérêt privé. Résister à la privatisation et défendre le système public. Donc, j'imagine, il y a des intervenants, il y aura des syndicats, il y aura des associations de travailleurs, des coopératives et tout ça, là.
Oui, des ONG, oui. Des groupes, des communautés religieuses, Des simples citoyens aussi qui ont proposé eux-mêmes leurs ateliers. Ça a été, en fait, tous ceux qui voulaient proposer des ateliers l'ont fait.
Mais est-ce qu'il y aura l'autre tendance qui sera représentée? Avez-vous des intervenants gouvernementaux? Avez-vous des partis politiques? Ou si c'est vraiment entre nous là, qu'on se réunit? Là, parce que ce sera plus des gens de la gauche, j'imagine.
Ben, c'est sûr que c'est des gens qui trouvent qu'il y a un débat de société qui se fait pas suffisamment au Québec, qui vont participer à ça, mais c'est pas simplement, c'est vraiment ouvert à tous, hein, cette affaire-là. Bon, par contre, c'est ouvert à tous, mais il y a quand même un bémol, c'est un espace qu'on veut non partisan.
Oui.
Et plutôt non gouvernemental. Donc c'est sûr qu'il y a aucun parti politique qui peut venir s'afficher en tant que parti politique. Donc c'est plutôt, on veut laisser un peu la parole à la société civile dans le fond,
oui.
Ou à la société dans son ensemble.
Quand vous regardez ça, là, parce que vous devez être impliqué dans le milieu aussi depuis un certain temps, est-ce que le Québec, par rapport à d'autres sociétés aux alentours du Canada et des États-Unis, est-ce que le Québec est quand même resté malgré tout une société plus solidaire comparativement aux autres, là?
Ah ben ça c'est un, ça je peux vous donner mon avis personnel
oui.
là-dessus. Oui, peut-être, possiblement sous certains aspects, peut-être moins sur d'autres. Hein, ça suit un peu la.
Mais vous, comme citoyen, là, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans tout ce débat-là, là, de la dérive néolibérale? Est-ce qu'il y a un dossier qui vous inquiète le plus?
Ben, il n'y a pas vraiment un dossier qui m'inquiète le plus, c'est plutôt une mouvance générale, c'est l'imposition d'un discours sur l'inéluctabilité de la réduction de la dette, par exemple, la nécessité de tout privatiser. Dans le fond, on se retrouve, et c'est un peu la logique des forums, là, c'est pour ça qu'ils ont été créés, on se retrouve devant un discours, une pensée, ce qu'on appelle une pensée unique, là où d'autres ont utilisé la formule avant moi, là, où on peut rien faire contre la mondialisation d'un côté, on peut rien faire contre toute cette tendance à la privatisation de toutes nos services, nos ressources naturelles. Alors, dans le fond, nous, ce qu'on veut dire, c'est, et on veut créer l'espace pour que les gens puissent le dire, c'est il y a aussi d'autres projets de société alternatives, plus solidaires. On peut faire les choses sans obligatoirement privatiser le système de santé. Mmh. On peut faire mieux sans obligatoirement vendre nos ressources.
Oui, mais ça prend du courage politique.
Tout à fait.
Il faut être original. On ne l'a pas dans le leadership actuellement au Québec, là.
Ben non, c'est vrai, il faudrait peut-être justement faire quelque chose. Et l'idée, un petit peu, c'est de ce rassemblement-là, c'est de donner la parole aux gens qui l'ont pas suffisamment pour peut-être interpeller les élites politiques pour que eux ensuite essayent de faire un peu des programmes qui soient plus en adéquation avec les attentes de la population.
Oui, mais regardez l'exemple, le dernier budget du gouvernement Charest, baisse d'impôts de 950 millions, tout le monde a décrié ça, tout le monde était contre, même la DQ était contre, alors que tout tombe en ruine, on peut pas se permettre de baisser les impôts, quoi, ça donnait 50 cents par jour, c'est ridicule. Mm-hmm. Malgré tout, ils l'ont passé.
C'est ça.
Fait que vous êtes pas découragé de voir qu'au fond, ça donne rien.
Ben, si on se décourage et qu'on se dit au fond ça donne rien, on retourne cultiver son jardin et puis on se préoccupe plus des choses. Il y a peut-être aussi, on peut aussi ne pas baisser les bras puis essayer d'interpeller et puis de continuer à se mobiliser pour dire, ben, dans le fond, on n'est pas d'accord avec ça.
Oui, mais la dette, prenez l'exemple de la dette qui continue à augmenter malgré la loi sur le déficit zéro. À un moment donné, si le Québec peut plus emprunter et les entreprises ou les pays à l'étranger tirent la plug, on pourra plus assurer la pérennité des services sociaux.
Ouais, mais ça dépend un petit peu, ce discours sur la dette aussi. La dette, le pourcentage de la dette publique là, par rapport au PIB,
oui.
C'est quoi? C'est entre 25 et 30%.
À peu près, oui. Mais est-ce que c'est pas normal d'essayer de trouver un plan de match alternatif? Je sais pas, moi, de choisir notre bouquet de services puis dire, ben, on va garder ça, mais ça, on va peut-être repenser, non?
Ben, ça peut être normal, mais c'est quoi la dette publique des États-Unis, par exemple?
Ah, ben oui, avec la guerre, c'est épouvantable, ouais.
C'est quoi la dette publique en Europe? Tout simplement, les critères qu'ils avaient fixés pour la construction européenne de Maastricht, c'était 60% d'endettement public pour le PIB. L'Italie est endettée à 120% de son PIB. Le Japon est endetté autour de 200% de son PIB. Donc, dans le fond, notre 30% ou 25% canadiens ou québécois, ça fait quand même c'est petit par rapport à ça. Donc c'est ça un petit peu le discours qu'on voudrait remettre en question. C'est comment ça chez nous 30% d'endettement c'est fou, puis on va tuer les générations futures, alors qu'en Italie ils l'acceptent à 120% et puis au Japon à 200%. C'est juste vous voyez,
c'est que le débat est pas complet, c'est ce que vous dénoncez.
Exactement, c'est qu'il faut peut-être essayer d'ouvrir le débat encore plus et puis d'intégrer d'autres acteurs dans cette discussion-là. L'exemple de Montebello, par exemple, c'est quelque chose d'assez intéressant. Tout le monde va parler des manifestations qui vont se passer autour de Montebello.
Mais on parlera pas de ce qu'eux autres vont parler en dedans.
Ben, c'est vrai, c'est quoi le PSP? Qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier? Ça va être quoi les implications pour toutes les sociétés nord-américaines? Ça, on n'en parle pas vraiment. Et justement, c'est un peu là-dessus qu'il faut